Ce message vous est proposé gratuitement et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
Donc voici ma Bible. Je suis ce qu'elle dit que je suis. Je possède ce qu'elle dit que je possède. Et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Je vais maintenant entendre l'enseignement de la parole de Dieu et je proclame hardiment. Mon esprit est ouvert. Mon intelligence est réceptive. Mon cœur est prêt à recevoir la semence incorruptible, la parole vivante et permanente de Dieu. Et je ne serai plus jamais le même. Plus jamais. Dans le nom de Jésus. Et dans le même ordre d'idées que ce que nous déclarons ensemble, je voudrais vous parler de quelque chose ce matin. Et le titre que je lui donnerai, c'est « Est-ce que ça marche pour toi ?» Parce qu'on a beaucoup de slogans, mais des fois, il faut se poser la question de leur efficacité. Je ne sais pas si vous avez des slogans pour votre vie, mais beaucoup de gens, ils ont des slogans. Les entreprises lancent des trucs. Par exemple, les gens disent « impossible n'est pas français ». D'autres disent « quand on veut, on peut ». On a vu dans un film aussi, c'était le fameux « quand on veut vraiment quelque chose, on finit toujours par y arriver ». Alors vous pouvez construire votre vie avec toutes sortes de petits slogans. Peut-être ça va vous soutenir pendant un moment, mais pour moi, ma question importante, c'est « est-ce que vous en vivez de ça ? Est-ce que ça vous permet vraiment de soutenir votre vie de tous les jours ?» Vous comprenez ce que je veux dire ? Si nous, en tant que chrétiens, on dit « oui, mais nous, on ne fait pas comme dans le monde l'autosuggestion, on a nos versets de la Bible pour s'appuyer dessus », mais mon défi pour vous, c'est « est-ce que vous en vivez ? Est-ce que c'est assez puissant, assez fort pour transformer quelque chose en vous ?» Alors, vous savez, il y a des fois trois attitudes qui se ressemblent extérieurement, mais qui sont différentes par leur nature. Certaines choses, nous pouvons les dire ou les faire, soit par la foi, soit par la présomption, soit par la folie. Mais elles se ressemblent. Vous pouvez faire une déclaration. Impossible n'est pas français. Ah, c'est possible. Rien ne peut m'arrêter. Je peux le faire. Mais en réalité, est-ce que vous en êtes vraiment capable ? Est-ce que vous en êtes vraiment capable ? Des fois, ça peut être simplement une folie. On dit, on va faire ci, on va faire ça. Et c'est une folie, on n'y arrivera pas. D'un autre côté, on peut dire, ça va aller, Dieu est avec moi, sans être sûr qu'il est bien dans l'affaire que je suis en train de m'engager. Ou alors, par la foi, c'est une ferme assurance, une conviction. Quand il est avec moi, alors on peut dire, je ne vais pas dévoiler tout de suite, mais quand il est avec moi, je peux dire certaines choses. Tout est possible avec Dieu. Mais j'ai remarqué, dans ma propre vie, et aussi dans la vie de beaucoup de gens qui déclarent des choses, c'est que quand ils le déclarent, c'est juste par rapport aux mots qui sont employés, mais ça sonne faux. Vous avez remarqué déjà ? Des fois, ça sonne faux. Qu'est-ce que ça veut dire, ce fameux « ça sonne faux » ? C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il n'y a pas assez de choses qui soutiennent ce qui veut être fait. Se lancer dans une entreprise ou une aventure, on dit des fois que l'intendance ne suit pas. Vous voyez, l'armée américaine, on dit qu'il y avait un combattant, il y avait 10 personnes derrière pour apporter les provisions, apporter les munitions, l'armement et tout ce qui est nécessaire. Et de la même façon, on se lance des fois dans certaines aventures, mais on n'a pas l'intendance, on n'a pas tout ce qu'il faut. Je peux me lancer dans certaines aventures avec un manque de préparation, je n'y arriverai pas. Je peux me cramponner, Dieu va m'aider. Si toute l'année vous ne travaillez pas, par exemple, pour vos études, vous aurez beau prier, peut-être, je ne sais pas, par chance, vous aurez quand même votre examen, mais il est assez difficile de nourrir votre foi si vous savez que votre cœur vous condamne parce que, par exemple, vous n'avez pas travaillé, vous n'avez pas préparé. Mais cet exemple pour des études, ça peut être valable pour n'importe quoi. aussi professionnellement. Des fois, moi aussi, je peux être amené à présenter quelque chose dans le cadre professionnel. Si je ne le prépare pas, j'ai un entretien, un rendez-vous, ou j'ai une réunion. Si je ne suis pas préparé, qu'est-ce que je vais dire? Ah ben, je sais pas, je vais pas préparé, faut que je cherche. Ça fait pas très professionnel, tout ça. Mais nous aussi, pour qu'on puisse gagner dans la vie, il faut qu'il y ait une préparation solide. Et alors, on peut y aller. Et alors, on ne sera pas dans la folie ou la présomption. Et c'est pour ça que j'ai un peu de mal. Dans la vie chrétienne, je vois beaucoup de gens qui échouent aussi. Et après, ça les fait douter de la puissance de la parole de Dieu. Ils aimeraient aussi voir la prospérité, la bénédiction, voir des choses se passer dans leur vie. Des fois, on entend des témoignages, comment Dieu agit, soit dans la santé ou les affaires ou autre. On aimerait pareil, mais on ne fait pas ce qu'il faut pour réussir. Alors, on a le verset de 3 Jean 2, que nous aimons beaucoup. Alors, on va le lire. 3 Jean 2, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Certains d'entre vous le connaissez, on l'a dit et redit. On va le dire encore jusqu'à s'en imprégner. « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Donc certains voulaient détruire la foi d'écrire, mais c'est pas Dieu qui l'a dit, c'est que Jean qui l'a dit à son ami Gaius, etc. Non, c'est pas ça. Si un homme peut souhaiter à un autre de prospérer, d'être en bonne santé, vous croyez que Dieu veut pas que vous soyez en bonne santé, que vous prospériez? Mais le mot clé ici aussi, c'est comme prospère l'état de ton âme, l'état de notre âme. Notre âme a besoin de prospérer. Il faut qu'il y ait une connexion entre ce que nous attendons, nos attentes sur l'extérieur et ce qui se passe à l'intérieur de nous. Alors, pouvons-nous devenir riches? Pouvons-nous prospérer? Oui, c'est possible. La Bible ne prévoit pas que nous gardions une position apparemment d'humilité, de « oh non, je ne cherche pas trop de choses », etc. Si vous êtes riche, ce n'est pas un problème. Il y aura toujours des pauvres à qui vous pourrez donner. N'ayez pas peur d'être trop riche, parce que vous pourrez toujours faire du bien autour de vous, de ce que Dieu vous a confié. Donc ce n'est pas une attitude spirituelle de rechercher la pauvreté et le dénuement. Parce que la pauvreté et le dénuement conduit à la dépendance. Or Dieu voudrait au contraire que des choses marchent pour vous, que vous soyez en mesure et en capacité de pouvoir aider d'autres personnes. Donc n'ayez pas une prière réduite de « pourvu que tout aille bien pour moi, ma petite famille, mes petits besoins ». Non, 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 ce n'est pas une prière spirituelle. Une prière spirituelle, c'est de pouvoir être en bénédiction. Ça ne veut pas dire que vous deviendrez forcément millionnaire pendant la nuit, mais ça veut dire que votre horizon va s'élargir. De plus en plus, vous verrez, vous pourrez, et c'est pas seulement une question d'argent, vous pourrez, par votre attitude, par vos actions, faire du bien autour de vous. Donc vous vous enrichissez et vous vous donnez de ce que vous avez. Des fois la pauvreté est exaltée, mais c'est à tort. C'est encore pour maintenir les personnes captives. J'aimerais revenir encore sur des paroles qui ont été lues il n'y a pas longtemps au milieu de nous. Et dans 2 Corinthiens 8, à un moment donné, il nous est dit de cette collecte des églises de la Macédoine, il nous est dit qu'ils avaient entendu qu'à Jérusalem, il y avait des moments difficiles pour les croyants, et donc les églises de la Macédoine ont fait une collecte pour l'envoyer aux gens de Jérusalem. Et maintenant Paul s'adresse aux Corinthiens et dit, regardez, les autres en Macédoine, ils ont fait une collecte pour les saints à Jérusalem, et donc vous devriez faire pareil. Et il explique, c'est pas une question de moyens. C'est pas parce que ceux de la Macédoine sont hyper riches qu'ils ont été capables de faire ça. Il dit au contraire, au verset 2, à travers la grande épreuve de leurs afflictions, il y avait des choses qui allaient de travers, il y a des choses qui étaient difficiles dans leur vie, mais ils ont eu une joie débordante. Cette joie venait de lui fait de connaître Jésus, de connaître la vie de Dieu. Leur pauvreté profonde, ça veut dire qu'ils ont vécu le dénuement de certaines choses. Mais ces choses, joie débordante et même réaliser sa pauvreté, a produit avec abondance de riches libéralités. Les riches libéralités, sont mesurés en fonction de ce qui est donné par rapport à ce qu'on a. Comprenez ? Jésus avait dit, la pauvre veuve qui a mis le quart de centime dans l'offrande, eh bien, elle a donné plus que ceux qui ont juste donné un petit peu de ce qu'ils avaient de toute façon, que ça ne leur coûtait rien du tout. Donc, c'est en rapport avec ce qu'ils avaient. Et donc, on a cru à certains moments que Jésus encourageait les gens à vivre dans le dénuement. Parce qu'on a vu aussi dans Marc, au chapitre 10, ce qu'on appelle l'histoire du jeune homme riche. Marc 10, 17. Donc Jésus se mettait en chemin, un homme accourut, se jetant à genoux devant lui. « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras de tort à personne, honore ton père et ta mère. » Donc il lui a cité, quoi ? Quelques-uns parmi les 10 commandements. Vous avez remarqué qu'il en manque un ? Il n'y a pas le premier ? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, l'Éternel, de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. En fait, il a pointé du doigt qu'il y a des personnes qui font certaines choses secondaires, mais l'essentiel, ils ne le vivent pas. L'essentiel, c'est de se donner à Dieu. Donc, quand l'autre lui a dit, « Mais je fais toutes ces choses dès ma jeunesse. » Et Jésus, l'ayant regardé, n'a pas dit, « Tu es un menteur, c'est pas vrai ce que tu dis. » Il l'a regardé, il l'a aimé, et lui a dit, « Il te manque une chose. » La chose qui lui manquait, c'est la chose essentielle. Et cette chose, il ne pouvait l'expérimenter que s'il était prêt à lâcher d'autres choses. C'est pour ça que son défi, c'était « Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. » Ce qu'il lui a dit, ce n'était pas une invitation à la pauvreté, c'était une invitation à rencontrer Dieu d'une façon réelle et personnelle. Et ceux qui étaient à suivre Jésus, ils ne manquaient de rien. Jésus pourvoyait à leurs besoins. Quand il y avait besoin de payer les impôts, ils allaient pêcher un poisson, il y avait l'argent qui était dans la bouche du poisson. Quand il n'y avait rien à manger pour les foules, ils multipliaient le pain et les poissons. Quand il y avait d'autres besoins, Jésus était là. Donc c'était un encouragement à le suivre lui et à expérimenter sa provision. On pourrait même dire que ce jeune homme ou cet homme connaissant la parole de Dieu aurait dû avoir une foi qui était construite sur les promesses de Dieu. La Bible dit dans le livre des Proverbes que celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel qui le lui rendra. Souvent on dit ça quand vous faites du bien à quelqu'un, on dit Dieu vous le rendra. Donc dans la tradition culturelle chrétienne, un certain nombre d'expressions comme ça sont restées, même des fois on dit Dieu vous le rendra au centuple, des choses comme ça. Mais on ignore la nature et la source de ces choses qu'on déclare. Mais donc, l'invitation de Jésus, c'était pas du tout, tu pourras plus goûter à rien du tout de la vie, mais il n'a pas compris l'appel de Dieu. Il n'a pas compris quelle chance énorme c'était pour lui de pouvoir expérimenter cette relation avec Dieu et de pouvoir faire partie du groupe qui vivait tout près de Jésus. Et je crois que là aussi, pour beaucoup d'entre nous, certaines choses, nous ne les vivons pas parce qu'on a toujours l'impression de perdre quelque chose. Alors qu'on devrait pouvoir suivre Jésus en disant « Mais je vais lâcher quelque chose, mais pour gagner quelque chose de meilleur. » Quand il est dit « Revêtez-vous de l'homme nouveau », ça veut dire « Je dois abandonner le vieux. » Mais le nouveau, il est meilleur, donc je dois me laisser entraîner par là. Ainsi donc, toutes les choses qu'on peut dire sur la réussite, sur le succès, on peut citer ensemble Josué 1:8, où il nous est dit que Dieu veut aussi là nous faire réussir, nous faire du bien dans ce que nous pouvons expérimenter. Josué 1:8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. J'aimerais dire, le succès ne vient pas du fait que vous allez citer Josué 1:8 10 fois, 50 fois ou 100 fois par jour. Le succès vient de vivre Josué 1:8. Josué 1:8, c'est méditer la parole de Dieu pour savoir comment agir. C'est alors qu'on aura du succès. Ce n'est pas, je prends comme un mantra, vous savez, dans la religion en Inde, Ils ont comme ça des mots, des sonorités, on les prononce encore et encore, et c'est soi-disant, ça a un effet bénéfique pour déclencher quelque chose dans votre vie. Là, on est totalement dans un autre sujet. On est dans la connexion avec la parole de Dieu. Le ciel et la terre passeront, mais les paroles de Jésus ne passeront jamais, parce que c'est lui qui est le créateur de toutes choses. Toutes les choses, tout ce qu'on voit a été créé par lui. Donc nous ne cherchons pas des slogans rapides, on ne cherche pas à se convaincre soi-même que telle ou telle chose a marché, mais on veut comprendre qu'est-ce qu'il se passe. Dernièrement, j'ai encore eu une question par Internet au sujet de la dîme. Est-ce qu'on doit donner la dîme sur le brut ou sur le net? Si j'avais eu le temps, j'aurais pu expliquer longtemps à cette personne que, en fait, ce n'est pas le sujet. Le sujet n'est pas là. Le sujet n'est pas dans le 9%, 10%, 11%. La dîme, c'est 10%. Mais notre vie avec Dieu doit lui appartenir à 100%. Et si Dieu vous conduit à donner quelque chose quelque part, ça ne doit pas être... Attends, il faut que je prenne ma calculette. Oula, j'ai dépassé 10%, c'est beaucoup trop, ça ne va pas. Ou alors, oh, je n'ai pas atteint les 10%, ça ne va pas. Ce n'est pas la question. La question, c'est quelle est ma disposition de cœur? Donc, si dans la loi de Dieu, pour le peuple d'Israël, il a établi 10% pour la dîme, pour le temple, le tabernacle, les prêtres et tout ça, et ensuite encore des offrandes volontaires, et nous qui sommes maintenant sous la nouvelle alliance par le sang de Jésus, est-ce qu'on va se remettre à calculer, à dire, bon, je donne 10% à Dieu, mais pas plus que ça? Ça veut dire qu'on n'a rien compris. On n'a rien compris. Mais si votre liberté en Christ vous conduit à donner toujours moins, alors là, il y a quelque chose qui joue pas, voyez. Donc moi, je n'ai pas envie de me faire piéger dans un légalisme, mais j'ai envie de nous réveiller en disant, mais si vous aimez Dieu de tout votre cœur, si vous rendez compte qu'il vous bénit dans votre vie, est-ce que c'est pour avoir toujours un environnement toujours plus étroit, toujours ma petite vie qui se replie sur moi-même, ou un impact? Et il y a des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, mais qui donnent beaucoup de temps. Et il y a des gens qui ont peut-être pas d'argent, mais qui ont des talents et des qualités. Donc la dîme, on peut la donner sur de l'argent, sur du travail, sur du service, sur du temps à donner, sur plein de choses. Donc vivre la dîme, c'est plus que juste avoir une machine à calculer dans sa main. Parce que dans la parole de Dieu, il y a un certain nombre de choses où Dieu s'engage. Ça, c'était, il nous a dit, la loi nous a donné, été donnée comme un précepteur pour nous conduire à Christ. C'est dans le livre de Galates. Un précepteur, ou un autre mot, c'est un tuteur. Donc, on comprend que certaines personnes, qui, pour X raisons, ont eu dans le passé des précepteurs, des tuteurs, qui s'occupaient d'élever leurs enfants. Et donc, à un moment donné, ben, ces gens, ils enseignaient, ils donnaient des conseils, ils surveillaient que le petit ou la grande soit bien enseigné dans ce que les gens voulaient qu'ils aient comme valeur. Mais si on prend au niveau des plantes, on imagine facilement que certaines plantes, au début, elles ont besoin d'un tuteur, quelque chose qui les soutienne. Mais la loi, c'est comme un tuteur. Ça nous a indiqué un certain nombre de choses que nous pouvons faire, mais c'est pas à nous, chrétiens de la Nouvelle Alliance, qui trouvons notre réalité en Christ, dans le Nouveau Testament, de nous replonger régulièrement dans l'Ancien Testament et de penser que là est la clé du succès. L'Ancien Testament a été donné, il a construit des choses en nous, ce sont des bases de la parole de Dieu, mais c'est pour nous conduire à Christ. On est d'accord pour ça? C'est très important. La plupart des fausses doctrines ont été trouvées dans l'Ancien Testament, donc c'est un retour en arrière qui a servi les gens de nouveau. Mais il y a des bonnes choses. Il y a des bonnes choses, mais par exemple, dans l'Ancien Testament, on trouve les proverbes. Est-ce que les proverbes sont de la Nouvelle Alliance ou de l'Ancienne Alliance? Ben, selon le cas, oui, non. C'est pas toujours écrit. Mais il nous est écrit dans Proverbe 3, par exemple, « Honore l'Éternel avec tes biens, avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de moût. » Donc je prends ça comme illustration. Si vous le prenez au sens légaliste, si jamais tu n'as pas donné les prémices, pas de bénédiction dans ta vie, ce n'est pas le sujet. Mais si dans votre vie, vous vivez d'abord votre budget, votre moi, ou tout ce que vous voulez, et après vous dire, est-ce que finalement il reste quelque chose pour donner à Dieu? Je vous garantis que le diable s'occupera de vous pour que vous n'ayez jamais de quoi donner à Dieu. Il y aura toujours des factures qui vont tomber, il y aura toujours des choses. Donc à un moment donné, pour honorer Dieu, ben, c'est les prémices que vous lui donnez. Vous lui donnez quelque chose au début et pas tout à la fin. Mais ce principe est valable pour d'autres choses aussi. Si vous avez un problème, une difficulté, et vous cherchez toutes les solutions possibles, et puis finalement, vous n'arrivez pas, vous ne trouvez rien, vous dites, je pourrais prier. Tout à la fin. Non, c'est si vous le mettez au début, c'est beaucoup mieux. Il peut vous aider dès le début. Si vous lui donnez les prémices, il peut bénir ce que vous avez mis de côté, des trésors dans le ciel. Mais il y a des choses, c'est pas automatique. Ah, mais c'est écrit dans Proverbe 3, 9, 10, alors automatiquement ça va se passer. Non, pas automatiquement, parce qu'on a lu ensemble 3 Jean 2. Comme prospère l'état de ton âme. Vous ne pouvez pas piéger Dieu. Il y a des gens qui ont fait un chèque. Ah, je fais un chèque, je sais pas, 1000 euros, voilà. Dieu, moi j'ai donné maintenant. Maintenant tu es obligé, toi, de faire en sorte que mon chèque soit approvisionné. Donc il y a des moments où quelqu'un a pu agir par la foi. Il sentait, il était poussé à donner alors qu'il n'était pas sûr humainement et sur le papier de savoir s'il y avait une provision. Et Dieu a fait le miracle et la provision était là. Et d'autres ont essayé de manipuler Dieu et alors ça n'a pas marché. Et ainsi qu'on raconte dans les écoles bibliques, un certain prédicateur est venu et il a été conduit par Dieu à donner sa voiture à un autre. Et donc il a donné cette voiture. Et ensuite, il a reçu une nouvelle voiture de quelqu'un d'autre qui était beaucoup mieux, etc. Donc quelqu'un a entendu ça, et il a aussi donné sa voiture. Et après, il a marché à pied pendant toute l'année, parce que pour lui, il n'y a pas eu de voiture qui est venue. Et donc, c'est pas pour se moquer de cette personne, mais pour prendre cette illustration, pour dire, non, on ne peut pas le manipuler. On ne peut pas le contraindre. Dieu va honorer sa parole, mais il n'est pas obligé de vous suivre si vous êtes juste présomptueux ou dans la folie. Présomptueux, vous savez ce que ça veut dire, hein, parce qu'on parle beaucoup la présomption d'innocence, vous savez, en France, quelqu'un, à moins qu'on ait vraiment prouvé qu'il était coupable, donc il est innocent, on a cette présomption. Donc, ce que j'ai dit concernant Ancien Nouveau Testament, on a néanmoins de belles choses dans l'Ancien Testament, et on va pas les jeter en disant maintenant c'est terminé. Prenez par exemple Deutéronome 28. Deutéronome 28 nous parle des bénédictions et aussi des malédictions. Donc, en tant que chrétien, on peut être tenté, on prend la parole de Dieu, on va prendre les meilleurs morceaux de Deutéronome 28, et ça va marcher. Alors, je vais prendre juste quelques extraits. Déjà, ça commence par « Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant, mettant en pratique tous ses commandements. » Tous ses commandements. Alors là, beaucoup de gens aimeraient la suite « Béni, béni, béni », mais pas le « si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu ». Vous avez vu comme « bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, sois en bonne santé », comme il y a une condition, « prospère l'état de ton âme ». Ici, c'est « tu veux la bénédiction ?» Alors, c'est seulement « si tu obéis ». Mais ça nous donne quand même une idée de ce que Dieu voudrait pour son peuple. Alors, si tu fais ça, tout ce que je te prescris aujourd'hui, voilà ce que l'Éternel va faire pour toi. Tout le monde dit « pour moi ». Voilà ce que Dieu va faire pour moi. Il te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Vous êtes en conflit avec toutes les nations de la terre? La Bible dit que nous sommes un peuple de rois et de sacrificateurs, une race à part. À partir du moment où nous avons été arrachés du monde pour être mis dans le royaume de Dieu, nous sommes comme un nouveau peuple réparti dans tous les pays. Mais vous avez d'un côté les nations et d'un côté le peuple de Dieu. C'est comme ça dans l'Ancien Testament. Le peuple d'Israël était à part par rapport à toutes les nations. Et nous vivons une sorte de parallèle. Nous sommes à part par rapport à tous les peuples, toutes les religions, parce que Dieu nous a appelés. Vous êtes les élus? Oui, on est les élus. Et tout le monde peut être élu dans le royaume de Dieu. Mais il faut être candidat pour ça. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Là, on est dans un contexte agricole, ça parlait aux gens, mais maintenant, ça serait plutôt voilà nos greniers, nos comptes en banque, nos stocks de marchandises. Toutes ces choses seront bénies. Vous devez transposer à votre vraie vie. Alors moi, je ne vous dis pas que ces choses, vous ne pouvez plus les appliquer. Mais je dis, il faut rebondir dessus pour avoir une nouvelle dynamique en Jésus. C'est pas, j'ai pas la bénédiction, quelles sont maintenant encore les règles que je dois observer, les principes. C'est plutôt, ces choses, Dieu les voulait pour son peuple. Alors est-ce qu'il les veut pas pour nous? Il les voulait pour le peuple d'Israël. On continue? Tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tous tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Même si vous n'êtes pas en guerre avec une épée ou un fusil mitrailleur, vous avez des ennemis, vous avez des choses qui s'opposent à votre vie. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par sept chemins. Vous imaginez les soucis et les difficultés qui se dispersent devant vous, qui fuient, ça dégage le passage. D'abord, c'est comme quelque chose qui vient contre vous, comme ça, vous avez l'impression qu'il va y avoir une collision. Et après, il y a une dispersion de tout ce qui est devant vous. L'Éternel ordonnera. Alors ça, j'aime bien. Parce que quand l'Éternel ordonne quelque chose, qui peut s'y opposer? Qui aurait la folie de se dresser contre un ordre de l'Éternel? Il dit et la chose arrive. Même si elle n'existe pas, à ce moment-là, il l'a créée. Alors il ordonne à la bénédiction d'être avec toi, dans tes greniers, dans toutes tes entreprises. Amen, on dit ça? Dieu ordonne à la bénédiction d'être avec moi dans mes greniers, dans toutes mes entreprises. Donc les greniers, c'est là où on amasse, là où on stocke. D'accord? Je ne sais pas comment est votre grenier, mais le grenier, c'est là où on a nos réserves. Autrefois, c'était les greniers à grains, à foin, à tout ce que vous voulez. Mais maintenant, c'est nos greniers, on met peut-être des fois des trésors, ça sera un autre sujet. Mais en tout cas, toutes nos entreprises, il bénira, il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, donc à part, comme il te l'a juré. Lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies, tous les peuples, et voilà aussi une chose intéressante, verset 10, tous les peuples verront que tu as été appelé du nom de l'Éternel, et ils te craindront. Je ne sais pas si vous avez envie qu'on ait de la crainte de vous, mais il y a une crainte qui n'est pas forcément de la terreur. Nous, on ne veut pas infliger une terreur aux gens qui nous voient, mais un respect. Un respect de Dieu où il voit qu'il y a quelque chose de différent sur la vie de ces gens. Quelque chose qui, peut-être ça ne se voit pas tout de suite, mais il y a quelque chose qui se passe là, ou qui ne se passe pas. Parce qu'il y a des gens qui vivent des choses difficiles et disent « Ah ben, chez vous, ce n'est pas comme ça. » Donc, qu'il voit ces choses. L'Éternel te comblera de bien. Nous avons dit, notre objectif ultime, ce n'est pas d'accumuler des biens. On n'emmènera rien d'ici-bas. D'accord? Mais ce que nous avons, on veut en faire un sujet de bénédiction. La Bible dit que nous pouvons en jouir, mais aussi que ça puisse faire du bien. Mais il nous comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux, le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations, tu n'emprunteras point. Et là aussi, nous, on considère que la pluie, c'est une bénédiction. Encore une fois, dans le monde agricole, les gens autour de nous, ils rouspètent après la pluie parce que c'est du mauvais temps, mais qu'en réalité, c'est la pluie qui permet que notre pays soit béni, un pays arrosé. Je ne sais pas dans quel état sont actuellement nos frères et sœurs au Burkina Faso, où pasteur Yves Gravet, ils ont 41 degrés actuellement en journée. Et donc, il y a des moments dans ces pays où on attend la saison des pluies, parce que c'est celle qui permettra que le pays continue de vivre. Donc, ici, on comprend aussi que c'était quelque chose de très important. Verset 13. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut, tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique. Donc, là encore, être toujours en haut, jamais en bas. Nous, des fois, dans nos états d'âme, on a des hauts et des bas, et tout le monde dit, c'est normal, des fois on a le moral, des fois on l'a pas. Mais ici, on voit que quelque chose de Dieu veut nous tirer toujours vers le haut, toujours vers le haut. Donc, ne baissez pas votre attente de la part de Dieu. Être la tête et non la queue, c'est aussi une réalité, c'est que avec Dieu, il veut nous amener dans des positions. La tête, c'est là où on décide. Hein, c'est pas ceux qui traînent derrière, qui prennent des initiatives. C'est des choses que Dieu voulait pour ce peuple, qu'il a promis au peuple d'Israël. Donc pour nous aussi, vous croyez pas qu'on peut aussi s'en emparer par la foi, de dire « oui, Dieu veut des bonnes choses pour moi ». Alors on peut le faire, ce n'est pas juste un slogan, ce n'est pas juste une façon de répéter comme un perroquet certaines choses de la parole de Dieu, mais on peut découvrir cette foi véritable. La foi véritable, on peut regarder ensemble dans Hébreux 11, toujours important, on connaît peut-être la... Quand je dis peut-être, c'est pas que je doute de vos connaissances, mais je ne veux pas faire semblant que tout le monde sait tout. Même celui qui sait a besoin de se rappeler de temps en temps de certaines choses de la parole de Dieu. Hébreux 11, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour préparer un salon, pour aller dans une autre ville maintenant, exposer pendant plusieurs jours, il y a des choses qu'on doit attendre, on doit espérer, on doit avoir une ferme assurance. On doit se lancer à l'aventure pour certaines choses. Mais ce qui est intéressant ici, c'est la fermeté. Quelque chose de ferme. Fermeté, ça veut dire « c'est à moi ». La foi, elle s'exprime de cette façon. Je sais que je sais que je sais. C'est pas « j'aimerais bien, mais je sais pas, je doute, est-ce que ça va marcher ?» Tout ça, c'est pas la foi. À un moment donné, il faut qu'on passe le cap. Comment est-ce qu'on peut passer ce cap? Je crois que ça se passe au niveau du cœur. Quelque chose se produit en nous. Jésus a dit « si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. » C'est très fort, hein? C'est dans Jean 15, verset 7, « si vous demeurez en moi. » Alors notre intelligence raisonne, comment peut-on demeurer en lui et lui en nous? À un moment donné, il y a une fusion dans l'esprit, il y a une telle unité qu'on ne sait plus qui est qui. On est un avec lui. Et à cause de ça, nos prières expriment la volonté de Dieu. Alors, rien ne peut plus s'opposer à un exaucement. Il y a un nécessaire enracinement. L'enracinement n'est pas... Vous savez, chaque passage de la Bible ne peut pas exprimer parfaitement une réalité spirituelle. Donc dans Jean 15, il parle de quoi? Il dit qu'il est le cep et nous les sarments. Donc on peut dire la racine, la force de la vigne, c'est dans le cep. Nous, on est juste... les extrémités. Et on sait que les sarments, particulièrement, dès qu'ils sont coupés, ils sèchent immédiatement. Hein, ce sont, pour ainsi dire, des brindilles. Donc, tant que c'est pas attaché au cep, il n'y a pas de vie. C'est sec, ça sert à rien. Ça ne peut pas produire de fruits. Donc, on a besoin de cet attachement. Mais on voit pas encore vraiment la notion d'enracinement. C'est pour ça qu'on a plusieurs passages de la Bible qui parlent de plusieurs choses, et chaque fois, on a un autre aspect. Jésus a dit de la semence de la parole de Dieu qui est semée en nous, dans Marc 4, au verset 16, il nous parle de certains qui n'ont pas de racines. Il dit, de même d'autres reçoivent la semence dans un sol pierreux. Quand ils entendent la parole, ils l'acceptent aussitôt avec joie, ce qui est déjà remarquable, parce qu'il y a des gens qui ne veulent rien entendre, mais là ils l'acceptent avec joie, mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Vous voyez, donc là on est à un stade plus loin. Avant, ce n'est juste les sarments attachés au cep. Là, c'est, est-ce qu'on a aussi des racines en nous? Ils sont les hommes d'un moment, et dès que surviennent les difficultés ou la persécution à cause de la parole, ils trébuchent. Si l'exaucement ne vient pas tout de suite, s'il y a un obstacle, alors, nous est dit, trébuchent. Mais, et ça j'aimerais le dire en conclusion, Dieu a quelque chose de meilleur pour nous. Et cette conclusion, on va la trouver dans le psaume 92, où nous est dit, les justes poussent comme le palmier. Ils grandissent comme le cèdre du Liban. Alors, je ne sais pas si vous avez été déjà dans ces pays, hein, mais en tout cas, un palmier, c'est grand. C'est même très haut. Même quand on va dans certains endroits, hein, Il y a des gens qui font attention qu'il n'y ait pas de noix de coco qui tombe sur les gens de passage, parce que une noix de coco qui tombe de combien? 20 mètres? 30 mètres? C'est déjà très dangereux. Mais de penser à le palmier, il pousse tellement loin qu'on se dit, imaginez comment il doit puiser pour que la sève, la vie, tout ça, ça aille jusqu'en haut, les fruits, il est tout en haut. Il n'est pas tout au long du tronc. Et ça marche. Ça marche, c'est une création de Dieu qui marche. Ensuite, ils grandissent comme le cèdre du Liban. Le cèdre du Liban, c'est vraiment l'arbre emblématique de ce pays. Et ce sont des arbres qui sont magnifiques. Des grands arbres, majestueux. Donc, voilà les exemples que Dieu prend pour nous dans le psaume 92. Les justes, nous sommes justes en Christ. Ça ne veut pas dire qu'on est des êtres parfaits, mais on a été parfaitement sauvés par le sang de Jésus. On a été parfaitement purifiés. On a accepté par la foi cette transformation que Dieu a opérée et ce transfert aussi. Notre péché a été mis sur Jésus pour que la justice de Dieu vienne sur nous. Alors, les justes, ils poussent comme le palmier, ils grandissent comme le cèdre du Liban. Et verset 14, plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent. Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Donc un parvis, c'est ce qui est immédiatement autour. Hein. Comme par exemple, dans certains endroits, vous avez quelques marches qui font arriver jusqu'à l'édifice. On parlait du parvis du temple, c'était pas le lieu même, mais c'était immédiatement autour. Ou chez nous en France, des fois c'est une cathédrale, hein. Vous avez le parvis, vous avez cet endroit très proche où vous accédez au bâtiment principal. Et donc, vous êtes en train de prospérer alors que vous êtes dans cette proximité de votre Dieu. Il porte encore des fruits dans la vieillesse. L'âge n'a aucune influence sur le fait de porter des fruits. C'est pas de ça que ça dépend. Ça dépend de notre attachement au cep, notre enracinement et la proximité avec Dieu. Ils sont pleins de sève et verdoyants. Si on regarde que dans la nature, il y a des saisons, etc. Mais nous, on a une seule saison, c'est de vivre avec Dieu en permanence. Ils sont pleins de sève et verdoyants pour un but, pour annoncer que l'Éternel est droit. Pour annoncer, voilà le but. On doit annoncer la droiture de l'Éternel, la justice de Dieu, annoncer la parole de Dieu, annoncer de bonnes nouvelles autour de nous. C'est pour ça qu'il veut nous bénir. Pas juste pour notre bien, même si c'est quelque chose de formidable, mais on a un objectif qui va au-delà. Donc on veut vraiment remercier le Seigneur pour ce plan qu'il a pour notre vie, et je vous souhaite à tous, avec Jean, de prospérer vraiment à tous égards. Encore plus prospérer, prospérer ça veut dire aller toujours mieux. Que tout aille en s'accroissant, qu'on voit des victoires, que la santé aille en s'accroissant. On a vu que c'est pas une question d'âge, parce que ça, on me l'a dit aussi, voilà, il y a des choses avec l'âge, ça guérit moins vite. Ça dépend de notre proximité avec Dieu. C'est pas une condamnation. C'est pour nous engager à être proche de lui. Donc, on veut demeurer avec lui. On veut demeurer en lui et lui en nous. Amen.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseigne-moi.org. www.association-enseigne-moi.org.